Je vais parler de l'évolution des structures juridictionnelles de la Normandie médiévale. Alors, c'est un sujet très vaste en réalité qui va nous amener du 11e au 15e siècle. On a l'habitude de dire, et c'est certainement une réalité, que la Normandie est une principauté particulièrement bien administrée au Moyen Âge, hein, par rapport à beaucoup d'autres principautés du Royaume de France notamment. Donc une administration ducale qui se met en place dès le 11e siècle et qui continue jusqu'à la fin du 12e siècle. Mais cependant, tout le monde le sait, il faut le rappeler, il y a quand même des périodes où les choses sont plus difficiles, des périodes de minorité et où l'ordre ne règne plus de la même façon et donc où ce système est mis un petit peu en difficulté. Cette principauté modèle, en quelque sorte, fait de l'ombre, si j'ose m'exprimer ainsi, au roi de France, hein, qui théoriquement, assez rapidement, est le seigneur du duc de Normandie, et par conséquent, le conflit entre le duc et le roi est inévitable, ce qui va amener un certain nombre de troubles et même de campagnes militaires, le premier en date étant le conflit entre Guillaume le Conquérant et Henri Ier, roi de France, et ensuite, beaucoup plus tard, son fils Philippe Ier. Alors ensuite, on va retrouver le même type de conflit aux générations suivantes, entre Henri Ier Beauclerc, donc roi d'Angleterre, cette fois-ci, bien entendu, et Louis VI, roi de France. Ils sont pratiquement contemporains, vous voyez, à deux années près, c'est les mêmes dates, et ils sont donc quasiment en conflit permanent pendant tout leur règne respectif. Et on va retrouver la même chose entre Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre, duc de Normandie, et Louis VII, roi de France. Bon, les choses ont un petit peu changé par la suite parce que Philippe Auguste, donc roi en 1180, a été d'abord un bon ami du roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion. Hein. Ils ont commencé par sympathiser, d'ailleurs, quand Richard Cœur de Lion était en révolte contre son père, donc il s'est tourné vers Philippe Auguste, mais vous le savez, les choses vont rapidement se gâter également. Finalement, le conflit est toujours inévitable, donc avec Richard Cœur de Lion, puis Jean Santerre. Alors, voilà, très rapidement dresser le cadre historique. Je vais donc suivre un plan tout à fait chronologique, hein, puisque je parlerai d'abord des origines. Donc, les principaux administrateurs, si je puis m'exprimer ainsi, sont les comtes et les vicomtes au XIe siècle. La véritable mise en place du système normand, c'est au XIIe siècle, ça sera ma deuxième partie. Ensuite, il y a le grand changement de 1204 et j'étudierai donc les institutions normandes après la conquête française au XIIIe siècle et je terminerai en parlant de la Révolution au XIVe et XVe siècle. Donc, première partie, aux origines, les comtes et les vicomtes du XIe siècle. Alors, je rends d'abord hommage à nos grands ancêtres, hein, on a beaucoup écrit sur ce sujet, et nous avons un certain nombre de grands spécialistes qui ont écrit déjà depuis longtemps, bon, Robert Genestal, Charles Homer Haskins, Jean Hiver, bien entendu, qui a été cité plus récemment, Yves Sassier et, en dernier lieu, Gilles Duin-David, qui était encore parmi nous hier et dans la thèse publiée en 2004, est vraiment un monument concernant cette question des origines précisément. On peut dire que au Xe et XIe siècle, hein, le titre de comte est porté par un certain nombre de grands aristocrates qui sont tous des membres de la famille ducale. Et la plupart du temps, ils sont issus d'union des ducs avec des concubines. C'est ce qu'on a appelé les mariages morés d'Anico. Alors, au départ, et d'ailleurs Gilles Duin-David nous en a reparlé hier, nous a parlé de cette charte de 918 où il est question du territoire cédé par le roi Charles le Simple à Roland et à ses compagnons, donc en latin vous voyez Roloni, suisque comitibus, donc nous avons ici le mot de comes, hein, le mot de comte, qui effectivement dans un premier temps désigne certainement les gens de l'entourage du duc, alors chef viking évidemment. Notez que c'est le même titre qui sera porté par les ducs une fois devenus ducs à partir de 911. Le titre de duc est tardif et la plupart du temps, on utilise jusqu'au milieu du XIe siècle le titre de comes. Hein, donc, le duc est d'abord comes, comte. Ou bien on utilise le titre de marchio, puisqu'il s'agit d'une marche maritime du royaume de France. Et le terme de dux, donc, qui apparaît pour la première fois pour Richard II, je crois que c'est en 968, mais qui ne se répand véritablement qu'après la conquête de l'Angleterre. À ce moment-là, le même personnage est roi d'Angleterre et duc de Normandie. Alors, je vous parlais donc de ce type de mariage qui a donné naissance à des contes, en quelque sorte, le mariage Moray-Danico, donc qui n'est pas... Alors, c'est là une coutume scandinave hein, qui a été appliquée, en tout cas au Xe siècle, puisque ces enfants, nés d'une union qu'on pourrait considérer comme illégitime, sont reconnus comme des descendants légitimes. Donc ça, c'est très important. Et tous ces gens-là, descendants des ducs Richard Ier et Richard II, on les appelle des Richardites. Geoffroy de Brionne, par exemple, au début du XIe siècle, Guillaume II, ou Robert. Alors, le cas de Robert est particulièrement intéressant, puisque c'est un personnage qui a une double carrière. Il est à la fois archevêque de Rouen hein, et comte d'Évreux. Alors, bien entendu, étant comte d'Évreux, il est obligatoirement marié. Hein. Mais ce n'est pas choquant à cette époque-là, on est à la fin du Xe siècle, hein, d'avoir des évêques mariés, c'est une autre histoire. On peut citer également, à la même époque, Raoul comte d'Ivry, qui est aussi apparenté à la famille ducale et qui va exercer véritablement le pouvoir pendant la minorité de Richard II, hein, tout à fait à la fin du Xe siècle. Alors, en dehors des comtes, vous avez aussi une autre fonction qui apparaît à cette époque-là, c'est la fonction de vicomte, hein, vicé comes. Donc c'est un terme latin qui vient directement de l'époque carolingienne, et donc on trouve, vous le savez, hein, l'influence carolingienne qui est très grande hein, sur ces institutions normandes. Et le vicé comes, donc vicomte, hein, dans le sens premier, ça signifiait, à l'époque carolingienne, le subordonné du comte. Mais à l'époque normande, enfin je veux dire dans le duché de Normandie, c'est un titre qui est donné donc à des représentants du duc qui n'appartiennent pas à la famille ducale, hein, qui sont des gens de moindre rang, mais qui jouent un rôle très important sur le plan pratique. Quelques exemples, un Gosselin, par exemple, vicomte de Rouen au début du XIe siècle. Nous avons aussi les vicomtes de Bayeux, les vicomtes d'Avranches, je reviendrai sur ces familles par la suite, hein, Renouf de Brixard et Toustingos, tout ça est au milieu, enfin tous ces gens-là vivaient au début du XIe siècle, ou bien Néel, vicomte du Cotentin. Alors souvent, les gens portent les mêmes noms de génération en génération, hein, donc c'est pas toujours facile d'ailleurs de les distinguer. Et il semblerait qu'au départ, ces vicomtes n'aient pas vraiment un territoire très nettement déterminé. Hein. On ne peut pas tracer les limites de ces vicomtés. C'est plutôt un titre honorifique. Hein. C'est plutôt des gens qui sont dans la cour ducale et qui ont ce titre. Et éventuellement, ils ont quand même une attache locale, le Cotentin par exemple, pour les Néel. Sans qu'il y ait d'ailleurs de capitale très nette non plus à cette époque-là. Alors, à l'époque de Guillaume, les vicomtes se multiplient, Guillaume le bâtard, bientôt conquérant, les vicomtes se multiplient, et il reste peu de comtés, parce qu'il faut dire que beaucoup de comtes, enfin plusieurs comtes, et vicomtes aussi d'ailleurs, ont participé à la grande révolte de 1046, hein, qui concernait surtout l'ouest du duché, et par conséquent, Guillaume va se méfier, en particulier vis-à-vis des comtes, et il ne reste plus guère, donc je vous ai indiqué le comte d'Ivry, d'ailleurs le comte d'Ivry, au milieu du XIe siècle, est en même temps évêque de Bayeux, hein, c'est Hugues d'Ivry, l'évêque de Bayeux, voilà encore un cumul, bon, le comte d'Évreux, j'en ai déjà parlé, et le comte de Mortain, donc qui est un nouveau comté, en quelque sorte, enfin, un comté qui est confié en 1056, donc à Robert de Mortain, donc ce qu'on appelle de Robert de Mortain, qui est le demi-frère de Guillaume. Donc, tous ces gens-là, qu'ils soient comtes ou vicomtes, appartiennent à la cour ducale, je le disais tout à l'heure, et cette cour ducale est modelée sur l'exemple de la curia regis, hein, de la cour du roi, elle-même héritée bien sûr du modèle carolingien. D'ailleurs, au début de la période, le roi est encore carolingien. On va donc trouver à côté du duc des grands officiers qui sont les mêmes que ceux de la cour royale. En Normandie, en réalité, on ne trouve que trois grands officiers, c'est-à-dire le sénéchal, donc senescalcus en latin, le bouteiller, pincerna en latin, et le connétable, comes stabularius, hein, le mot à mot, le comte de l'étable, hein, si vous voulez. Plutôt le comte de l'écurie, hein, qui s'occupe de l'écurie ducale, ce qui est évidemment très important à cette époque. Donc, je vous ai indiqué le chancelier en dessous, mais c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de chancelier en Normandie, en tout cas avant la conquête de l'Angleterre. Il n'y a pas de chancellerie ducale, et ça c'est un point très important. Les actes que nous possédons, et qui ont été édités par Marie Fauroux notamment, et ensuite par David Bates, hein, ces actes des ducs de Normandie sont rédigés la plupart du temps par leurs destinataires, hein, c'est-à-dire essentiellement par les établissements ecclésiastiques, qui eux, évidemment, disposent de scribes capables de les écrire et de les rédiger. Donc des gens aussi qui connaissent le droit, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Voilà ce qu'on peut dire très rapidement, évidemment, sur les débuts, et j'en arrive tout de suite à ma deuxième partie, qui va être la mise en place des structures juridictionnelles au XIIe siècle. Alors, l'institution la plus célèbre, bien entendu, c'est l'échiquier de Normandie. Et cet échiquier apparaît sous le règne de Henri Ier Beauclerc, c'est-à-dire dans les années 1130. Et en fait, apparaissent tout à fait simultanément l'échiquier d'Angleterre qui siège à Winchester et l'échiquier de Normandie qui siège à Caen. Donc, d'ailleurs, le choix de Caen est tout à fait intéressant parce que, par justement l'installation de l'échiquier, Caen est consacré en quelque sorte comme capitale secondaire de la Normandie. Bon, capitale, ça n'a jamais eu rien d'officiel, si vous voulez. La capitale de Normandie, c'est Rouen. Hein. Là, je fais plaisir aux Rouennais qui sont ici, mais c'est vrai, hein, bien entendu. En tout cas, pour le Moyen-Âge, il n'y a aucun problème. Mais Caen est une ville nouvelle à cette époque-là, et il est certain que donc les ducs, Guillaume d'abord, et ensuite son fils Henri Ier, ont favorisé Caen, justement, notamment en installant à Caen ces institutions fondamentales de la Normandie et l'échiquier. Alors, bien sûr, à Caen, vous avez un château bon, qui est toujours là, un très grand château avec qui comprend 5 hectares à l'intérieur de son enceinte, c'est de son enceinte, hein, c'est un des plus grands châteaux d'Europe. Et puis Henri Beauclerc a construit un donjon qui est aujourd'hui détruit, mais une grande aula, donc une salle de réception qui abritait les sessions solennelles de l'échiquier. Alors il y avait sûrement d'autres utilisations de cette salle. C'est une salle polyvalente, on pourrait dire ça aujourd'hui. Mais on a raison, à mon avis, tout à fait raison, de l'appeler salle de l'échiquier, puisque c'est là que se réunissait l'échiquier de Normandie, les séances solennelles qui réunissaient autour du duc, donc les évêques, les barons, et un certain nombre de clercs plus spécialisés dans le droit. Alors, je rejoins d'ailleurs ce qu'anime ma collègue Florence Moulin hier, hein, le droit romain, on ne sait pas trop, hein, on peut le supposer, mais dès ces années, en 1130, il y a obligatoirement des clercs qui sont formés dans le droit romain. Et grâce à vous, on sait peut-être un petit peu plus où ils pouvaient être formés au XIIe siècle. L'échiquier a aussi une autre fonction, c'est la fonction financière, hein, puisque les représentants du duc, et justement les vicomtes hein, en particulier, doivent venir chaque année rendre leur compte à l'échiquier pour obtenir le quitus. Et c'est d'ailleurs alors c'est une fonction beaucoup plus restreinte, là il n'y a pas besoin d'une grande salle, une petite salle suffit, mais on pense, enfin, on a tout à fait raison de penser que ces comptes étaient rendus autour d'une table sur laquelle il y avait un drap avec des cases et donc en forme d'échiquier. C'était de là que vient le nom d'échiquier. Ces cases étaient une sorte de machine à calculer rudimentaire, on peut le dire. la situation de l'échiquier à Caen s'explique aussi par la présence du port, hein, qui permettait de partir facilement vers l'Angleterre, même si ce n'était pas la voie la plus courte, puisque la voie la plus courte, c'est à partir de Barfleur, et c'est là que stationnait justement ce navire du roi d'Angleterre, bien entendu. Alors, voilà, j'ai indiqué ici pour l'échiquier des comptes le nom d'Abaque. Bon, c'est ainsi qu'on appelle cette petite machine à calculer, genre boulier, si vous voulez, qui était utilisée au Moyen-Âge. Et finalement, l'échiquier, c'est une façon... on pense que l'échiquier, les différentes cases représentaient les différentes façons de compter la monnaie. Donc, livre sous denier, vous connaissez le système. Donc, avec des jetons, ça permet de savoir facilement... ce que rendait chacun des officiers du camp. Alors, l'un des gros problèmes du duc-roi, hein, c'est qu'il il règne à la fois sur l'Angleterre et la Normandie, et par conséquent, il ne peut pas être partout. Michel de Boire a eu une excellente formule à propos de cette situation, parlant de Guillaume le Conquérant dans sa biographie. Il y a un chapitre qui s'appelle « L'impossible ubiquité ». C'est-à-dire que le roi ne peut pas être à la fois en Normandie et en Angleterre. Et quand il est en Normandie, il y a des problèmes en Angleterre. Et quand il est en Angleterre, il y a des problèmes de son temps. Du temps de Guillaume, ce n'était pas en Normandie, mais plutôt aux frontières de la Normandie. Hein, dans le Maine, par exemple. Enfin, des zones qui sont soumises et qui se révoltent à cette occasion. Donc, pour résoudre ce problème, Henri Ier a créé une nouvelle institution très importante, hein, qui est ce qu'on appelait à l'époque le Capitalis Justitiamea, enfin c'est le duc qui parle, évidemment le duc roi, donc ma justice capitale, c'est ce que ça veut dire, si vous voulez. Et donc on traduit en général en français par le grand justicier, hein, et ce grand justicier donc qui représente le roi, alors soit en Normandie soit en Angleterre, c'est exactement parallèle, il y a aussi un grand justicier d'Angleterre, mais en ce qui concerne la Normandie, pendant longtemps, l'évêque de Lisieux, Jean de Lisieux, qui est en même temps d'ailleurs un évêque réformateur, par ailleurs, mais aussi Richard Dilchester, évêque de Winchester, bon, mais qui est grand justicier de Normandie. Hein, donc vous voyez, on voit bien, on utilise un évêque anglais, enfin d'Angleterre, hein, pour être grand justicier en Normandie, et bien sûr l'inverse existe aussi. Et puis ensuite, pendant très longtemps, Guillaume fils Raoul, alors c'est intéressant parce que les deux premiers grands justiciers étaient des évêques, tandis que celui-là était un laïc, et même un laïc d'origine relativement modeste, il n'appartient pas à une grande famille aristocratique, hein, donc Guillaume fils Raoul qui occupait la fonction pendant très longtemps, donc de 1077 à 1200, c'est-à-dire il a fait trois rois. Et les trois rois, on pensait qu'il fallait le garder, c'est particulièrement intéressant. Donc bien sûr, ces rois sont Henri II Plantagenet, Richard Cœur de Lion et Jean Santé. La charge de vicomte tend à devenir héréditaire. Alors, c'est, si vous voulez, quelque chose qu'on peut considérer sans doute comme un défaut du système, mais qui est extrêmement classique au Moyen-Âge. Hein. Les charges ont tendance à devenir héréditaires, et c'est évidemment le cas aussi pour la charge de vicomte. Et donc c'est le cas, je vais vous donner l'exemple de la famille des Néel, puisque nous sommes justement dans le Cotentin, enfin, au sens du Moyen-Âge, hein, nous sommes dans le Cotentin, c'est-à-dire dans le diocèse de Coutances en réalité. Et donc les Néel exerçaient leur autorité en tant que vicomte à partir du XIe siècle dans cette région. Bon, au départ, ils ne sont pas très fixés, comme je l'ai dit, puisque, par exemple, Eric Van Torout, qui a fait sa thèse récemment sur le Cotentin, a montré qu'ils se sont installés relativement tardivement à Saint-Sauveur le vicomte, hein, puisque justement, on appelle Saint-Sauveur le vicomte à cause de ça, bien entendu. Et alors, le problème de l'hérédité, c'est le problème, enfin, c'est un des problèmes. Quand il y a un fils, il n'y a pas de problème, justement, on rejoint le droit normand, mais très souvent, en ce qui concerne à la fois les grands fiefs et les offices comme celui-là, ça peut être une fille. Hein. Donc on accepte la succession féminine. Et que se passe-t-il quand une fille hérite à la fois des fiefs et de la charge? Eh bien, en général, elle transmet au moins la charge à son mari. Alors, c'est exactement ce qui va se passer ici. Au milieu du XIIe siècle, Laetitia est l'héritière de la famille Néel. Elle va épouser Raoul Tesson, donc, qui appartient à une autre grande famille aristocratique, dont les principales possessions se trouvent au sud de Caen. Hein, les Tessons sont notamment seigneurs de Thury, aujourd'hui tu aurais recours, mais au Moyen-Âge, c'est pas du tout tu aurais recours. Ça n'a rien à voir avec la famille d'Harcourt. Donc, Raoul Tesson devient vicomte de Cotentin. Et puis, deux générations plus tard, c'est à nouveau la même chose. Mathilde, qui est la petite-fille hein, de Laetitia et de Raoul Tesson, Mathilde épouse Richard d'Harcourt. Alors, cette fois-ci, la vicomté du Cotentin va passer dans la famille d'Harcourt. Et d'ailleurs, le château de Saint-Sauveur-le-Vicomte va rester dans la famille d'Harcourt hein, jusqu'à Godefroy d'Harcourt. C'est assez connu hein, au moment de la guerre de Cent Ans. Alors, de la même façon, j'ai déjà cité tout à l'heure, on trouve à Avranches la famille Gauze qui va se transmettre cette fonction. Et puis, à Bayeux, la famille de Brixard. Alors, en ce qui concerne Bayeux, ils s'appellent tous Renouf dans la famille. Hein, donc, c'est toujours, c'est d'ailleurs une difficulté pour les historiens puisque on a parfois du mal à savoir de quel Renouf il s'agit. Et d'ailleurs, on y a fait allusion hier dans la communication de Daniel Power. Pour certains actes, on ne sait pas trop à qui les attribuer, puisque c'est très souvent le même nom qui est porté de génération en génération. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que ces familles de vicomtes, qui deviennent de grandes familles aristocratiques, ont aussi acquis des biens en Angleterre, hein, puisque nous sommes dans le royaume anglo-normand. Et j'ai pris justement l'exemple de l'un de ces Renouf, je crois que c'est Renouf III, vicomte de Bayeux, qui va épouser l'héritière de la vicomté d'Avranches. Il va donc cumuler ces deux vicomtés, de Bayeux et d'Avranches. Et finalement, il va hériter aussi du comté de Chester en Angleterre. Il va donc cumuler, vous voyez, deux vicomtés normandes et un grand comté de la frontière galloise en Angleterre. Alors évidemment, ça ne fait pas l'affaire du Ducroy, si vous voulez dire. La constitution de grands ensembles aux mains des mêmes personnages, hein, puisque la politique des ducs a toujours été, au contraire, de donner des terres dispersées aux grands, de manière à éviter d'éventuelles rébellions. Mais les tenants de ces grandes familles cherchent au contraire à se constituer évidemment des fiefs importants, et c'est surtout par la voie du mariage hein, et c'est exactement le cas pour cette famille des Renouf de Brixard. Il faut dire un mot peut-être aussi des seigneuries ecclésiastiques hein, puisque en dehors de cette administration donc ducal, vous avez aussi un certain nombre de seigneuries ecclésiastiques qui échappent finalement à l'autorité ducale. Alors c'est le cas de grandes abbayes comme l'abbaye de Fécamp, l'abbaye de Montivilliers qui ont une véritable exemption. Et c'est le cas aussi d'un évêché, un seul évêché parmi les sept évêchés normands, c'est l'évêché de Lisieux hein, qui a un statut tout à fait particulier puisque l'évêque de Lisieux est à la fois le seigneur temporel et le seigneur spirituel, bien sûr, mais le seigneur temporel de Lisieux et des environs. Alors, c'est pas très grand, hein, son territoire propre. Hein. Il y a quelques paroisses autour de Lisieux. Et à la fin du Moyen-Âge, l'évêque de Lisieux s'intitulera comte de Lisieux. Mais c'est un titre qu'il s'est donné lui-même, on peut le dire. Hein. Ce titre n'a jamais été utilisé par les ducs rois anglo-normands et non plus par les rois. C'est assez amusant au XVe siècle, parce que dans les actes, l'évêque se dit évêque et comte de Lisieux, et quand le roi répond, il dit mon cher aimé évêque de Lisieux, il dit surtout pas comte, justement. Alors, il y a eu quand même un cas intéressant concernant l'évêque de Lisieux. C'était en 1199, hein, tout à fait à la fin du XIIe siècle. Il y a une contestation, il y a un personnage qui apparaît, Robert, et qui se prétend vicomte héréditaire de Lisieux. Alors, bien sûr, l'évêque n'est absolument pas d'accord, hein, puisque pour lui, il n'y a jamais eu de vicomte héréditaire. Et par conséquent, l'affaire est portée devant le roi, Jean Santerre, à l'époque. Et Jean Santerre va procéder à la manière normande. Il va décider une enquête. Hein, et comme c'est une affaire qui concerne de hauts personnages, cette enquête sera confiée à 18 chevaliers. Hein, et ces 18 chevaliers rendront le droit et diront que ce Robert n'a aucun droit sur l'évêché de Lisieux et que, au contraire, c'est bien l'évêque hein, qui est le seigneur. et que le roi n'a que les plaies de l'épée, hein, c'est-à-dire trois droits qui restent rois. Donc, je vous ai indiqué leur nom latin, des submontione exercitus nostri, des viacoria nostra et des moneta. Hein, c'est-à-dire que le roi se réserve le droit de convoquer donc les chevaliers et les hommes libres, hein, dans le cadre de l'armée, bien sûr, de l'ost. Et il se réserve aussi la protection de ceux qui vont se rendre à la cour ducale. Vous connaissez, hein, ces droits, enfin, les juristes les connaissent en tout cas, et puis le droit de battre monnaie. Hein, voilà. Et tout le reste appartient à l'évêque de Lisieux. Alors, pour terminer avec cette période ducale, on peut dire que c'est l'époque, deuxième moitié du XIIe siècle, où apparaît une nouvelle charge, celle des baillis. Hein, mais dans un premier temps, il semble que ces baillis soient plutôt des officiers itinérants, hein, qui ne sont pas liés à un siège particulier. Mais c'est intéressant de se rendre compte que le roi a pensé que justement les vicomtes n'étaient plus suffisamment dépendants de lui, puisqu'ils avaient leur fief, ils étaient héréditaires. Donc il fallait introduire une nouvelle autorité, hein, qui dépend directement du roi, et ce seront les baillis. Mais l'institution va se mettre en route véritablement à la période suivante, et c'est l'objet de ma troisième partie, donc les institutions normandes après la conquête française. Donc après la conquête française, c'est bien entendu Philippe Auguste qui ne va pas modifier fondamentalement les structures juridictionnelles, mais qui va savoir les utiliser à son profit. Alors, il conserve les grands officiers, le connétable. Alors, ce sont des officiers qui sont devenus héréditaires, bien entendu. Donc, le connétable appartenant à la famille Diomé, le chambrier qui appartient à la famille de Tancarville. Bon, le sénéchal, très rapidement, Philippe Auguste va supprimer la charge de sénéchal. Il se méfie du sénéchal parce que le sénéchal a tendance à devenir une sorte de premier ministre à l'époque. Hein. Et Philippe Auguste a aussi supprimé le sénéchal royal. Hein. Je vous ai cité là ici Thibaut de Bois. Il est mort à la croisade. Eh bien, il n'a pas été remplacé. Donc c'est la même chose pour la Normandie. Alors, les baillis de Normandie vont cette fois se fixer, en quelque sorte, sur Philippe Auguste. Et il y aura donc 5 bailliages, enfin 5 ou 6, ça va évoluer au cours du XIIIe siècle. Au début, il y en a 13, hein, et puis ça se réduit finalement à 6 à la fin du XIIIe siècle, et finalement à 5. Je vous ai indiqué ici leurs noms: Rouencamp, le baillage de Caux, le baillage de Cotentin, Verneuil et Gisors. Ces deux derniers vont fusionner d'ailleurs tout à fait à la fin du XIIIe siècle. Alors, concernant les bailliages, bon, le bailliage de Rouen, donc le plus important, le bailliage de Caen, le bailliage de Cotentin qui correspond à peu près au département de la Manche actuelle, donc qui comprend d'ailleurs à la fois le Cotentin, le Coutancé, si vous voulez, et l'Avranchin. Donc, alors, il n'y a pas de bailliage quand il y a des comtés. Hein, donc, à cette époque-là, parce que là, c'est une carte plutôt pour le 14e, il y a le comté d'Alençon, j'en parlerai tout à l'heure. Par contre, vous avez donc le bailliage de Verneuil et le bailliage de Gisors, qui sont plutôt des bailliages frontaliers, en quelque sorte. Hein. Et ce sont ces deux bailliages frontaliers qui vont fusionner à la fin des 13e siècle. Ici, il y a le comté d'Évreux, donc il n'y a pas de bailliage. Ici, il y a le comté d'Eu, le comté d'Aumale, donc il n'y a pas de bailliage dans ces régions. Mais nous verrons tout à l'heure, si j'en ai le temps, hein, que les comtes ont aussi leur propre administration, et j'en dirai un mot tout à l'heure. Alors je vais prendre un exemple de bailli, peut-être un bailli modèle, hein, de Philippe Auguste, qui est Pierre du Tillet. Alors tous ces baillis de Philippe Auguste sont des baillis étrangers à la Normandie, hein, puisqu'ils viennent de l'ancien domaine royal, donc on dirait l'Île-de-France aujourd'hui. Et c'est le cas évidemment de Pierre du Tillet, qui est originaire de Gonesse et qui a fondé d'ailleurs l'hôpital de Gonesse. Et il a été bailli de Caen pendant très longtemps, parce que les baillis de Philippe Auguste restent très longtemps en place, souvent. Et en particulier ici, ça fait quasiment 20 ans, de 1205 à 1224. Alors, Philippe Auguste va donner à ces baillis des terres. Donc ils vont devenir des seigneurs locaux, si vous voulez, ce qui est un peu dangereux finalement, mais les rois changeront de politique après. Mais dans un premier temps, c'est ça. Et par exemple, Pierre du Tillet reçoit des terres dans le Pays d'Auge, notamment la seigneurie du Ménimogé, de Saint-Loup de Fribourg. Alors on connaît aussi, pour Pierre du Tillet, son clerc. Alors voilà justement un homme intéressant, un Guillaume Macquarin, donc un juriste certainement, On ne sait pas trop où il est formé encore, là on est tout à fait au début du XIIIe siècle, mais ce clerc va jouer un rôle très important, et on le connaît aussi parce qu'il a fait un certain nombre de fondations religieuses, et notamment le Saint-Sépulcre de Caen, hein, dont, qui existe toujours, dont il est le fondateur. Le bon bailli, c'est Pierre de Tillet, le mauvais bailli, c'est Lambert Cadoc. Hein. On n'en connaît pas beaucoup de mauvais baillis en réalité, hein, mais on sait... par les Querimoniae Normannorum, hein, les plaintes des Normands, donc une grande enquête menée du temps de Saint-Louis, que les Normands n'étaient pas du tout contents, hein, de la façon dont s'était opérée la conquête. Ils avaient beaucoup de griefs contre les officiers du roi, et notamment contre celui-là, hein, Lambert Cadoc, bailli de Ponteau de Mer, et il aurait détourné 14 200 livres parisiens. Alors j'essayais de faire un calcul pour savoir à quoi ça correspondait. Bon, Philippe Auguste payait ses baillis aussi, et il les payait bien. Hein. Donc il les payait, enfin normalement le tarif c'était 140 livres par an. Alors 140 livres par an, j'ai fait, je sais hein, que c'est à peu près le prix d'une belle maison. Hein. Donc il pouvait se payer une belle maison chaque année. Donc une belle maison aujourd'hui, si... alors là je n'écrirai pas dans mon texte, mais je peux vous le dire oralement, une belle maison on dirait que c'est 1 million d'euros. Hein, 800 000 livres sterling si vous voulez. Hein. Et donc le détournement de 14 200, vous voyez, ça fait 100 millions d'euros. Donc c'est quand même pas mal. Hein. C'est une très grosse somme. Hein. Et donc finalement, il a été arrêté en 1219 et il a fini sa vie en prison. Mais c'est le seul cas, si vous voulez. Bon, il faut dire que c'est un personnage assez particulier. C'était en fait un chef de guerre qui était excellent pour la conquête, qui a bien aidé Philippe Auguste, donc il l'a récompensé. Mais ensuite, il a continué à utiliser un peu les mêmes méthodes qu'en temps de guerre. Voilà. Alors les baillis ont des fonctions diverses, notamment des fonctions militaires, puisque je vous cite l'exemple de Jean des Vignes ici, bailli de Rouen, hein, et qui a conduit par exemple l'armée royale en 1230, c'était au moment de la minorité de Saint-Louis, pour aller combattre les rebelles normands à cette époque-là, qui s'étaient tournés vers le roi d'Angleterre, Henri III, au moment où celui-ci avait fait une descente en Bretagne. Il n'avait pas osé venir en Normandie, il était allé en Bretagne. Alors, Bouxu met en place une véritable hiérarchie judiciaire, avec donc le bailli qui est principalement un juge, mais pas uniquement, hein, je vous dis, il a des fonctions diverses. Et donc le bailli tient ses assises, hein, puisque c'est, il juge assis, bon, c'est ce que ça signifie au départ. En dessous, vous avez la justice du vicomte, hein, le vicomte tient ses plaies, hein, les plaies du vicomte, c'est comme ça qu'on les appelle à partir du XIIIe siècle. Et tout à fait en bas, vous avez une justice locale, qui est la justice des sergents du roi. Mais il ne faut pas oublier que ça n'est pas la seule justice, hein, comme partout au Moyen-Âge. Vous avez les justices seigneuriales, hein, qui jugent les clercs. Les justices seigneuriales, donc, sont les justices des seigneurs. Alors, petit à petit, on peut faire appel de la cour du seigneur à la justice royale. Et puis, vous avez bien sûr la justice ecclésiastique qui, elle, juge les clercs, mais qui juge aussi tous les chrétiens, hein, tous ceux qui peuvent être soupçonnés de blasphème. Bon, il y a peut-être toutes sortes de cas, d'hérésie, d'atteinte aussi aux droits d'asile, etc. L'institution de l'échiquier continue, hein, sous Philippe Auguste. Elle est d'abord réunie à Falaise parce que Philippe Auguste se méfie des Normands, il a peur qu'ils se révoltent, donc il va tenir son échiquier dans un château très bien protégé à Falaise. Ensuite, il revient à Caen, parce que finalement, le château de Caen est tout aussi sûr. Et puis ensuite, sous Saint-Louis, c'est en alternance à Caen et à Rouen, avec une tenue très régulière de l'échiquier, deux fois par an sous Saint-Louis. Hein. Donc la personnalité du roi est évidemment très importante. Et puis, à partir de Philippe III le Hardi et Philippe IV, donc fin du XIIIe siècle, là, les sessions deviennent beaucoup plus irrégulières, et en fait... chaque fois que les successionnistes, c'est toujours à Rouen. Hein. Donc, à partir de la fin du XIIIe siècle, la dernière fois pour Caen, c'est 1294. À partir de la fin du XIIIe siècle, le XIVe et XVe, c'est toujours à Rouen. Alors, le roi, cet échiquier est quand même assez particulier, parce que c'est théoriquement une institution normande, mais à partir de Philippe Auguste, ce sont des clercs du roi, hein, qui viennent tenir l'échiquier. Donc je vous ai donné le nom de quelques-uns de ces clercs du temps de Philippe Auguste, qui sont tous des Français de France, hein, d'Île-de-France, et qui connaissent pas véritablement le droit normand. Et les Normands, bon, ils ont plus tellement envie de venir. Les évêques et les barons sont la plupart du temps absentéistes à cette époque-là. Alors, voyons maintenant l'évolution de ces institutions au XIVe et au XVe siècle. Alors le premier point, c'est la charte normande, le début de la guerre de Cent Ans. Donc c'est quelque chose qui a été très bien étudié par plusieurs de nos collègues, et en particulier par Sophie Poiré, hein, qui a fait un article remarquable, hein, sur la question il n'y a pas très longtemps. C'était d'ailleurs à l'occasion d'un colloque de Cerisy. Donc je rappelle simplement que la situation des Normands a complètement changé entre le début du XIIIe siècle et la fin du XIIIe siècle. Parce qu'au début du XIIIe siècle, c'est véritablement une colonisation, hein, par les Français. Et à la fin du XIIIe siècle, la situation s'est renversée, puisque le principal ministre de Philippe le Bel, au début du XIVe siècle, c'est Enguerrand de Marigny, hein, c'est-à-dire un seigneur normand. Il a un titre modeste, hein, le titre de chambellan royal, mais c'est lui qui exerce la réalité du gouvernement pendant 10 ans, entre 1304 et 1314. Ça ne va pas avoir de bonnes conséquences pour lui, parce qu'il va être complètement détesté, si vous voulez. Hein. Philippe le Bel n'est pas un roi très populaire, parce qu'il a besoin d'argent, donc il exige des impôts, et les Français de l'époque, et les Normands en particulier, ne veulent pas payer d'impôts. Hein. Bon, ça ne vous étonnera pas. Voilà. Ça n'a pas fondamentalement changé, peut-être. Alors, en tout cas, après la mort de Philippe le Bel, il y a un mouvement de révolte un petit peu partout. Et le nouveau roi, donc, va accorder un certain nombre de chartes. Alors, la plus importante, la plus célèbre, et celle qui a les effets les plus durables, c'est évidemment la charte aux Normands. Alors, concernant la charte aux Normands, je ne vais pas entrer dans tous les détails, parce que ça serait trop long, mais il y a quand même un certain nombre d'articles sur lesquels il faut revenir. Donc, ça concerne la monnaie, ça concerne l'impôt direct. Les Normands ne devront payer que l'impôt traditionnel, justement, le fouage monnayage, qu'ils payaient sous les ducs, mais aussi la bonne administration, mais aussi le respect de la coutume. Alors, voilà l'article qui me paraît le plus important. Je voulais indiquer, hein, comme les causes du duché de Normandie doivent être jugées et terminées selon la coutume du pays, donc allusion à la coutume de Normandie, bien sûr, que celles qui auront été terminées ou finies par sentence en notre échiquier de Rouen ne puissent dorénavant être apportées ou envoyées ou à nous ou à notre Parlement, et que nul ne puisse être ajourné en notre Parlement pour une cause de la dite duché. Le Parlement, c'est bien sûr le Parlement de Paris, donc cet article consacre l'échiquier de Normandie comme tribunal suprême de la Normandie, à égalité finalement pour les autres régions du royaume avec le Parlement de Paris. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Mais évidemment, nos collègues l'ont déjà dit hier, abondamment, ça n'est pas du tout respecté dans la pratique. Voilà, alors donc, c'est pas appliqué, en particulier parce que nous arrivons dans la guerre de Cent Ans, et que dès 1337, c'est le début de la guerre, et en 1339, les Normands envisagent, enfin, le roi, s'appuyant sur les Normands, envisage une nouvelle conquête de l'Angleterre. La guerre de Cent Ans aurait pu être différente. Et vous auriez pu être français au lieu de dépendre de la reine d'Angleterre s'ils avaient réussi, hein, puisque en 1339, les Normands s'apprêtent à conquérir l'Angleterre. Et ils ont à nouveau un duc, puisque c'est Jean le Bon. Il est prévu que Jean le Bon deviendra roi d'Angleterre. Hein. Donc il refera exactement la même chose que Guillaume le Conquérant quelques siècles auparavant. Et les Normands s'enthousiasment pour ce projet. Ils acceptent de financer, ça va coûter très cher, une armée de 20 000 hommes, hein, pour aller, et la flotte qui permet de les transporter pour aller en Angleterre. Alors malheureusement, ça n'a pas marché. Enfin malheureusement, de notre point de vue, on va dire. Donc les Anglais ont été les plus rapides, hein, puisque c'est Édouard III qui a débarqué en Flandre, et donc la flotte normande s'est transportée en Flandre, et elle était battue à la bataille de l'Écluse. C'est la première grande bataille de la guerre de Cent Ans. Mais entre-temps, les Normands avaient profité pour obtenir une seconde charte aux Normands, hein, qui rappelait au roi, justement, les engagements. Alors, c'est pas le même roi, c'est évidemment Philippe VI de Valois, mais les engagements qu'avait pris son prédécesseur quelques temps plus tôt. Bon, alors je passe rapidement. Donc, pendant la guerre de Cent Ans, évidemment, c'est une situation un petit peu mouvementée, mais l'administration au quotidien continue à fonctionner. Bon, sous Charles V en particulier, parce que Charles V, c'est un roi qui remet les choses en place. Et puis la fin du XIVe siècle, c'est une période relativement tranquille, si vous voulez, de pause dans la guerre de Cent Ans, en particulier pour la région, à partir de 1393, hein, comme quand les Anglais acceptent de restituer Cherbourg, hein, qui était la dernière place qu'ils possédaient en Normandie. Donc il y a une période une quinzaine, une vingtaine d'années relativement calme à cette époque-là. Mais alors, je voudrais dire un mot concernant les apanages hein, qui, à cette époque-là, se sont constitués en Normandie parce que ça a des conséquences très importantes sur le plan institutionnel. Hein. Le roi a donc accordé des apanages généralement à ses fils. Donc, Saint-Louis a Pierre Ier, l'un de ses fils, comte d'Alençon à partir de 1269, et puis ensuite, à la génération suivante, Philippe III a concédé le comté d'Évreux à son fils Louis en 1298, et vous allez voir que ça a des conséquences très importantes. Le tableau généalogique concernant la famille d'Évreux, hein, vous voyez donc le lien de parenté avec le roi qui est très proche, hein, puisque Louis comte d'Évreux, je vous l'ai indiqué, donc Philippe comte d'Évreux va épouser Jeanne de Navarre et ça va rapprocher encore la famille du roi puisque Jeanne de Navarre, c'est la fille de Louis X le Hutin. Alors, celle qui a été écartée du trône, si vous voulez, hein, puisqu'on a préféré choisir un homme. Mais en compensation, on va lui donner le royaume de Navarre. Et donc, l'héritier, c'est Charles II, comte d'Évreux, roi de Navarre. Donc, un personnage qui est très important, qui aurait pu être roi si on avait... Si on avait accepté la succession féminine. Il était mieux placé que le roi d'Angleterre, parce que le roi d'Angleterre, lui aussi, par sa mère, descendait du roi de France, mais Charles II était beaucoup plus proche, il en était parfaitement conscient, si bien qu'il va entrer en conflit, évidemment, avec son cousin, qui pour lui, certainement, est un usurpateur, c'est-à-dire Jean le Bon. Jean le Bon est conscient aussi de la difficulté et des problèmes que pose ce personnage, et il lui donne en mariage, sa propre fille, hein, en 1252, mais ça ne va pas suffire à l'assagir, puisque Charles de Navarre fait assassiner Charles d'Espagne, qui est le connétable du royaume, en 1354. Et alors, paradoxalement, finalement, la paix va être faite assez rapidement, grâce à l'entremise de femmes qui sont des reines appartenant à la famille, j'entre pas dans les détails, et finalement, en 1354, Charles va obtenir beaucoup de territoires supplémentaires. Donc l'assassinat, ça paye parfois, si vous voulez. Et il va obtenir le comté de Beaumont-le-Roger, les baronnies de Conches et de Bretagne, le bailliage de Cotentin. Alors, il y a un point sur lequel je voudrais insister à ce sujet, c'est que le roi donne, mais il ne donne que d'une main, si vous voulez. Et en fait, il pratique la politique de ce qu'on appelle les réservations royales. Hein. C'est-à-dire que le roi va donner un morceau de territoire, mais il va se réserver un autre morceau qui n'est pas loin, de façon à pouvoir toujours surveiller ce qui se passe. Et par exemple, le roi donne la vicomté de Pont-Audemer, mais il conserve un certain nombre de paroisses. Et pour les gérer, il va créer une seconde vicomté juste à côté, hein, qui est la vicomté de Pont-Autou. Et quelquefois, ça va même plus loin, parce que vous avez parfois des paroisses qui sont coupées en deux, une partie qui relève de l'apanagiste et une partie qui relève du roi. Donc on arrive à une sorte de mosaïque qui devait être extrêmement difficile à gérer dans la pratique, et c'était une source de conflits interminables entre les princes apanagistes et les autorités royales. L'autre grand apanage, en dehors du comté d'Évreux, c'est le comté d'Alençon. Alors vous voyez, donc les comtes d'Alençon sont extrêmement proches des rois valois, hein, puisque Philippe de Valois, donc était lui-même comte d'Alençon, hein. Et donc une fois quand elle était roi en 1328, il a donné son comté d'Alençon à son frère Charles, hein. Voilà, trois comtes dont nous allons parler tout à l'heure. Pierre II, hein, qui est sans doute le plus grand comte d'Alençon. Ensuite Jean Ier qui devient duc, puisque ce comté est érigé en duché en 1414. Il ne va pas en bénéficier parce qu'il meurt à Azincourt en 1415. Mais on parlera tout à l'heure de son fils Jean II, un duc d'Alençon, qui est un personnage important de la deuxième moitié du XVe siècle. Alors, je vais très rapidement pour voilà aussi quand même le territoire du comté d'Alençon. Donc vous voyez, c'est quand même une très grosse partie de la Normandie, vers le sud, le comté d'Alençon ici. Il y a aussi le comté du Perche, hein, puisque le comté d'Alençon est en même temps comté du Perche. Et puis des territoires détachés, là aussi le roi n'a pas voulu donner tout en un seul morceau, hein. Il y a donc des morceaux, et en particulier un morceau qui nous intéresse ici, c'est le seigneurie de Montaigu-la-Brisette, ce qu'on appelle Alençon au Cotentin. Vous voyez, c'est joli, Alençon au Cotentin. Alors oui, j'ai donné le nom d'Anne Vallès, hein, qui a écrit un article fondamental, hein, et sur le comté, la constitution du comté d'Alençon, qui a fait aussi des cartes très, très intéressantes dans l'Atlas historique de Normandie. Donc, je vous parlais du comte Pierre II tout à l'heure. qui a grandi par son mariage et classique son comté, qui a acquis aussi, a acheté la châtellenie dans l'ensemble. Le reste, je l'ai dit, je passe. Alors donc, des conflits avec le roi, qui sont des conflits quasiment inévitables, avec en particulier Charles II de Navarre. Alors, ça finit mal en général. Charles II est exilé par le roi Jean le Bon en 1362 dans ses terres de Navarre. Mais il ne suffit pas d'exiler le prince, encore faut-il prendre possession de toutes les forteresses qu'il possédait, et ça sera très difficile pour le roi. Voilà, j'en arrive donc à la dernière partie, et je voudrais un mot très rapide de la période de l'occupation anglaise, et ça va aller jusqu'au recouvrement de la Normandie. Alors bon, les épisodes, vous les connaissez, Azincourt, on fêtera ça en 2015, et il y aura sans doute un colloque de Cerisy, le soi-disant dauphin Charles qui est exclu du trône, la conquête de la Normandie, donc entre 1417 et 1419, bon, le roi Henri V meurt très rapidement, et c'est donc Henri VI, à l'âge de 8 mois, qui devient roi de France et d'Angleterre, et le pouvoir est exercé par Jean, duc de Bedford, régent de France, qui est le frère d'Henri V. Bon, tout ça, vous connaissez bien sûr. Simplement pour dire, du point de vue institutionnel, il n'y a pas que des côtés négatifs à cette occupation anglaise, puisque Rouen devient la véritable capitale du royaume, avec les principales institutions s'installent à Rouen. Le conseil du roi se réunit à Rouen la plupart du temps. Une chambre des comptes s'installe en 1436, une cour des aides, et même l'université, puisque le roi d'Angleterre a perdu l'université de Paris. Il faut former les cadres à cette époque-là, et l'université est à Caen. C'est grâce à ça nous avons une université à Caen. Je passe rapidement. Alors, la dernière chose que j'ai à dire, c'est concernant le duché d'Alençon. Et ce duc d'Alençon, donc non pas Jean Ier, mais ce duc Jean II, 1415-1400, enfin c'est les date où il est duc, c'est un révolté perpétuel, si vous voulez, parce qu'il n'est pas du tout satisfait. Alors ça se passe après le recouvrement de la Normandie par le roi de France, il n'est pas du tout content, parce que par exemple, combattant pour Charles VII, il a été fait prisonnier, il a dû payer une rançon énorme, si vous voulez, une rançon de 200 000 livres, alors 200 000 livres, si vous voulez, vous voyez, par rapport à nous, 14 000 livres, alors on n'est pas à la même époque, mais c'est quand même une somme absolument considérable. Donc il a dû vendre 200 000 livres, ça représente à peu près la valeur de la baronnie de Fougères, si vous voulez. Vous voyez, donc un très grand territoire, un grand château, il a été obligé de vendre sa baronnie de Fougères. Alors il espérait la récupérer, et il espérait que le roi lui rachèterait, mais ça n'a jamais été le cas. Donc il s'est révolté, il a comploté avec les Anglais de façon assez maladroite, il s'est fait en prisonnier. Et à chaque fois, son duché a été mis en la main du roi, c'est-à-dire confisqué. Alors, comment fonctionne ce duché ? C'est intéressant parce que, justement, ces apanages fonctionnent sur le modèle du royaume. Vous avez un chancelier d'Alençon, vous avez un conseil ducal sur le modèle du conseil royal, vous avez un échiquier d'Alençon sur le modèle de l'échiquier de Normandie. Alors, dans le Perche, il y a aussi une autre institution, parce que ce n'est pas la même coutume, les grands jours du Perche. Mais le roi surveille tout ça. Il surveille par l'intermédiaire de grands seigneurs, Jean d'Aillon, seigneur de Lune, ou Jean Blosset, seigneur de Carreau. Surtout que le roi de cette époque, c'est Louis XI. Et Louis XI, finalement, il n'apprécie pas d'avoir des grands morceaux de territoire qui échappent véritablement à son pouvoir. Alors, le duc d'Alençon a aussi le même système de bailliage. Il a donc deux bailliages, bailliage d'Alençon et bailliage du Perche, des vicomtés et des châtelniers. Si je prends l'exemple de la vicomté de Domfront qui a été étudiée par un de mes étudiants, Franck Mauger, et vous avez à Domfront un lieutenant particulier. Alors, les baillis sont des grands personnages maintenant, donc ils n'exercent plus leur fonction dans la pratique. C'est un titre honorifique en quelque sorte. Donc ceux qui font le travail, ce sont les lieutenants particuliers. C'est peut-être le cas pour vous aussi, monsieur le bailli. Donc le lieutenant particulier du bailli d'Alençon qui juge au nom du bailli. Même chose pour le vicomte, c'est un lieutenant général du vicomte, et puis il y a aussi d'autres officiers, gardes du sceau des objections, tabellions, avocats et procureurs. Alors, tous ces gens-là, je vous ai donné quelques noms de familles qui ont occupé ces offices, tous ces gens-là, vous voyez, sont conseillers et praticiens en cours lait au pays de Normandie, donc c'est des gens qui sont formés en droit, et en droit romain, évidemment, maintenant dans les universités, bien sûr, époque-là, ça peut être Caen, ça peut être Orléans ou Angers également. Et donc les officiers inférieurs appartiennent à des familles modestes en réalité, bien implantées dans la région. Vous avez le père et le fils, par exemple, qui occupent à distance la même fonction. Alors, dernière chose que je voudrais dire, j'ai quasiment terminé, la fin de la Normandie, donc on ne pourra pas aller plus loin, vous voyez. Donc, Louis XI nomme à nouveau un sénéchal de Normandie, grand sénéchal, on dit à l'époque, c'est Pierre de Brézé, mais presque aussitôt, il y a une révolte des grands, vous la connaissez, ce qu'on appelle la Ligue du Bien Public, une bataille indécise, la bataille de Montlhéry, si bien que le roi est obligé de céder la Normandie à nouveau en apanage, si vous voulez. Et il la cède à son frère, qui est aussi son héritier, puisqu'il n'a pas de fils. Mais si le roi a un fils, si vous voulez, la Normandie risque d'échapper au roi, donc c'est très grave. Alors, ça ne va pas durer longtemps. Charles, d'ailleurs, un personnage fantasque qui n'est pas capable véritablement de s'imposer. Finalement, dès que le roi le peut, il récupère la Normandie, et symboliquement, il fait briser l'anneau ducal. Et on considère généralement que c'est la fin du duché de Normandie. Alors l'échiquier est très peu réuni à cette époque-là, il est en décadence et il faudra attendre 1499, donc l'échiquier perpétuel, alors nous sommes sous le règne de Louis XII, c'est-à-dire l'échiquier permanent qui va bientôt se transformer en parlement de Normandie. Voilà, alors j'ai terminé. Donc, vous voyez, l'échiquier, c'est vraiment l'institution symbolique qu'on retrouve tout au long de la période, qui va finir par se transformer en parlement et qui va donc durer jusqu'à la Révolution française. La charte normande, considérée comme une véritable constitution de l'ancien duché, qui sera brandie, on l'a déjà dit, devant les rois à chaque nouveau règne, en quelque sorte. La coutume qui reste la seule roi de la province, et ceci, là aussi, jusqu'à la Révolution, jusqu'à aujourd'hui, pour vous, bien entendu. Et puis, donc, ce parlement de Normandie qui est né, en quelque sorte, du Moyen-Âge et qui se pose à égalité avec le Parlement de Paris jusqu'en 1789. Je vous remercie.